À la belle époque, quand on était une grande dame, on se devait d'avoir ses œuvres et de s'y dévouer. Or, en 1885, l'idée est venue de réunir toutes les associations caritatives de Paris pour créer, pendant 3 semaines chaque année, un grand bazar de la charité. En 12 années, la manifestation s'est pas mal promenée, on l'a vu au Faubourg Saint-Honoré, rue La Boétie, etc. Mais en cette année 1897, pour la première fois, elle a pris ses quartiers rue Jean Goujon, pas très loin du pont de l'Alma. Alors à quoi ressemble-t-il ce local du Grand Bazar de la Charité au 17 de la rue Jean Goujon? Eh bien, imaginez un assez grand terrain vague, dominé par les pignons de hauts immeubles qui sont là tout autour dans le quartier, et sur ce terrain, dominant la rue, un vaste baraquement en sapin de 80 mètres sur 13 qui a servi naguère de salle de théâtre pour amateurs. Au centre, vous avez une entrée assez monumentale, formée de 3 portiques surmontés de hampes où flottent des bannières colorées. Et au-dessus de cette entrée, en lettres rouges, on peut lire « Bazar de la Charité ». Ça n'en reste pas moins une baraque en bois blanc. Et dès qu'on la voit, on se dit « Oh là là, si jamais le feu prenait là-dedans ». Le président du salon est un homme trapu à grosses moustaches blanches, c'est le baron de Macau. Or, en cette année 1897, il est tout fier d'annoncer à ses bienfaitrices que le jeune Harry Blount a eu pour la décoration une idée géniale. Pour une somme dérisoire, Blount a fait acheter par le comité un décor qui avait été utilisé il n'y a pas très longtemps pour l'exposition du théâtre au Palais de l'Industrie. C'est un décor de carton-pâte et de papier mâché qui représente une rue de Paris au Moyen Âge. Ça veut dire que vous avez là des boutiques avec de belles enseignes, à la tête noire, à la truie qui file, à la tour de Nesle, et si vous ajoutez des oriflammes de crépons, des fleurs artificielles, bah vous avez un Moyen Âge 1900, un Moyen Âge de patronage, et vous vous dites « mais si le feu prenait là-dedans ?» Car des stands de carton et de papier, évidemment, ça peut flamber. Surtout si l'on coiffe tout ça d'un grand vélum de toile goudronnée claire destiné à servir de verrière à peu de frais. On aurait voulu faire un feu de joie, on ne s'y serait pas pris autrement. Le 5 mai 1897, le tout Paris de la Haute Charité s'est donné rendez-vous au son d'un orchestre élégant qui joue des valses. C'est la belle époque, l'air embaume de parfums coûteux, c'est Pivert, c'est Lubin. Les toilettes de ces dames sont magnifiques, quoi de plus aérien que tous ces surats, ces gaz, ces chapeaux, ces aigrettes, ces hauts collets de tulle ruchée, et on se dit « oh là là, si le feu prenait là-dedans !» À 3h30 précise, le nonce apostolique a fait une entrée plutôt discrète, il faut bien le dire, parce que la foule est déjà très compacte. En l'absence de l'archevêque de Paris, qui est retenu à Rome, il est venu bénir la fête de l'esprit de bonté et de sacrifice. Peut-être devrais-je quand même vous rappeler le principe de ces ventes de charité. Il s'agit, si vous voulez, pour les grandes dames, la duchesse de La Rochefoucauld, la baronne de Rothschild, d'autres grandes dames, de jouer les vendeuses sur des stands où sont cédés toutes sortes d'articles, plus ou moins bradés par leurs fournisseurs, à des clients qui, en les achetant, font un don indirect aux bonnes œuvres. Cette année, la dame patronesse la plus importante est Son Altesse Royale, la Duchesse d'Alençon, épouse du très distingué duc d'Alençon et donc cousine du duc d'Orléans. Surtout, elle est la sœur de l'impératrice Élisabeth d'Autriche, la célèbre, la mythique Sissi. La Duchesse d'Alençon présidera le stand numéro 4, celui des noviciats, qui se trouve tout à fait à droite de l'entrée, du côté de la rue. Elle est à elle toute seule, une sorte d'attraction pour la foule élégante, et d'autant plus que son mari lui fait la gentillesse de lui tenir compagnie un moment sur le stand. Mais pour tout vous dire, la véritable attraction du bazar de la Charité millésime 1897, c'est le cinématographe. Monsieur Normandin, entrepreneur dans cette toute nouvelle forme de spectacle, elle n'a été inventée que l'année précédente, Monsieur Normandin a installé son matériel dans une petite salle qui se situe juste derrière le baraquement sur ce qu'il reste du terrain vague et au fronton de laquelle on peut lire ce grand panneau. Le cinématographe perfectionné, photographie animée, la plus merveilleuse découverte du siècle donnant l'illusion de la vie réelle, prix d'entrée 0,50 €. 7 vues différentes sont proposées à raison d'une séance tous les quarts d'heure. L'assistant qui s'occupe de la lampe de projection s'appelle M. Bellac. C'est lui qui, notamment, est chargé du plein en éther. Vous avez bien entendu, j'ai parlé de lampe, d'éther. Un tel équipement est-il raisonnable au milieu de tout ce bois sec, de tout ce carton, de toute cette toile goudronnée? Bien sûr que non, c'est pas raisonnable. Monsieur Normandin est en train de changer une bobine. Oh, on y voit goutte ici, dit-il à Bellac. Donne-moi de la lumière. L'assistant craque une allumette qui enflamme aussitôt les vapeurs d'éther de la lampe et communique une flamme au rideau de la cabine de projection. Vous avez un bénévole qui est posté près de l'écran et tout de suite lui voit la lueur suspecte, ce qui fait que il réagit à temps, il fait évacuer la petite salle du cinématographe. Bellac aussitôt sort de la cabine, est un peu affolé, il lance à ce bénévole qu'il ne peut maîtriser le feu, qu'il faut prévenir d'urgence Monsieur de Maco, qu'il faut tout faire évacuer. Alors le brave garçon court jusqu'au bureau des organisateurs qu'on appelle Hôtel des Prévôts, par souci de détails médiévaux. Dommage entre nous qu'on se soit montré un peu moins pointilleux sur le chapitre de la sécurité. Il est exactement 4 heures quand les responsables, qui affectent une certaine tranquillité et pas mal de bonhomie, il est 4 heures quand ils commencent à faire évacuer en douceur une galerie pleine à craquer. Il y a à ce moment-là 1200 invités dans le bazar de la charité et c'est tout de suite le sauve-qui-peut. Déjà, la salle de cinéma entière est la proie des flammes. Ça commence à roussir la paroi de la vaste galerie commerçante du bazar de la Charité. Et d'un seul coup, une flamme jaillit de derrière la cloison. Elle se faufile très vite jusqu'au plafond. Elle gagne le vaste vélum goudronné et à toute vitesse, en une seconde tout au plus, elle se propage sur les 80 mètres de faux ciel de cette rue de Moyen-Âge en carton-pâte. Ça fait comme un ronflement sinistre et puis soudain, des flammes partout en l'air qui tout de suite se mettent à redescendre le long des portants, des boiseries, des drapeaux, des décors. Ah, il faisait déjà très chaud dans le baraquement, mais là, d'un seul coup, c'est la fournaise. Un immense cri de panique a retenti. C'est aussitôt la précipitation désordonnée de la foule. Un mouvement général immédiat vers l'issue, là au milieu, l'issue principale, celle qui donne sur la rue. Comment vous décrire cette bousculade, cette mêlée, les empoignades, les arrachements, les coups bas? En quelques instants, ce sont plusieurs centaines de personnes qui se sont retrouvées agglutinées devant les deux tambours de l'entrée. Parce qu'il y a des tambours aux portes, des tambours qui évidemment ralentissent l'évacuation. Certains cherchent à s'agripper, on se bouscule, on se bat. Un jeune homme assène des coups violents avec le pommeau de sa canne à des femmes autour de lui. Un monsieur d'âge respectable entreprend d'escalader tout un tas de personnes effondrées au sol. À quelques pas de là, une religieuse s'est agenouillée, en prière, les mains jointes, tandis que sa robe de bure est déjà la proie des flammes. La panique est indescriptible, et d'autant plus que le feu se propage extrêmement vite, comme une traînée de poudre. Le décor, après seulement 4 minutes d'incendie, n'est plus que lambeaux noircis et cendres incandescentes. Des pans entiers commencent à s'effondrer sur les gens, enflammant les vêtements, les cols, les cheveux et jusqu'aux barbes. Le goudron en fusion, qui goutte partout du plafond, provoque aussi de terribles brûlures. L'exemple du sang-froid et du courage, c'est la duchesse d'Alençon qui va le donner. Pour une fois, elle a élevé la voix. « Surtout pas de panique, dit-elle. Les jeunes filles d'abord. » Il y a une telle grandeur dans ses priorités désespérées. « Sauvez-vous, ajoute la duchesse. Partez bien vite, je sortirai la dernière. » Malgré l'épaisse fumée noire, maintenant suffocante, qui empêche de voir à 2 mètres, le duc, son mari, au moment du sinistre, il s'était absenté, il était du côté de l'entrée, le duc revient vers le stand numéro 4, tandis que la duchesse, espérant sans doute le voir, s'est avancée dans la fumée vers la porte. Elle a eu l'excellent réflexe d'envoyer ses petites vendeuses de l'autre côté, vers l'une des 2 issues de secours qui donnent sur le terrain vague. Mais là-bas, ce sont les mêmes scènes de bousculade que devant les grands tambours de la rue. Après 6 minutes de fournaise, le baraquement en cours d'effondrement est devenu un véritable four qui brûle vive des dizaines de victimes. La chaleur est telle que les cheveux s'embrasent tout seuls. Parmi les femmes qui parviennent à s'extraire au dehors, les témoins seront sidérés de constater que certaines hurlent sans blessure apparente. En fait, c'est que leurs jupons brûlent sous leurs robes. La foule, totalement paniquée, paraît prise d'aveuglement. Ainsi, par exemple, personne ne songera à simplement ouvrir les fenêtres qui donnent sur le terrain vague. Il y en a 7 en tout. Il aurait suffi de faire tomber les espagnolettes. Seulement, comment voir des fenêtres au milieu de tant de flammes, de tant de fumée? L'odeur des chairs brûlées, le bruit des os qui éclatent, les cris désespérés des victimes qui se transforment en torches vives font de la fournaise le pire enfer qu'il soit possible d'imaginer. D'ailleurs, ça dépasse de loin l'imagination. Georges Grison dira de la catastrophe, je le cite, « J'ai fait la guerre de 70. J'ai assisté à 80 exécutions capitales. J'ai été le témoin de 50 catastrophes terribles. Jamais, jamais je n'ai rien vu d'approchant dans l'horreur. » À 16h14, le bazar de la Charité n'est plus qu'un brasier grondant et hurlant. Son toit, ses hautes cloisons, tout est en train de s'effondrer. Alors que les secours s'organisent en un temps record, le feu gagne. Le duc d'Alençon a continué de chercher désespérément sa femme. Le feu a pris dans sa barbe blanche et l'a roussie. Peu lui importe, il veut retrouver sa Sophie. Une femme qui l'a reconnue lui assure qu'elle est sauve. « Oh, la duchesse est sortie !» lui crie-t-elle. Illusion ou pieux mensonge. Le duc finira par sortir sur le terrain vague, mais ce sera pour comprendre qu'il a été trompé. Oh, il reverra sa femme, mais il la reverra morte, calcinée, réduite à l'état d'un demi-cadavre noir et mangée par le feu. Dehors, sur ce terrain vague, certains rescapés se roulent par terre malgré leurs blessures, afin d'éteindre le feu qui les poursuit, sont comme fous. Il faut dire qu'ils sont prisonniers. La seule issue apparente, c'est un soupirail qui est ouvert dans le mur aveugle de l'hôtel du palais, dont les cuisiniers ont entrepris de faire sauter les barreaux à coups de masse. On appelle ce genre de soupirail « un jour de souffrance ». Avouez que ça ne s'invente pas. Au sein d'une mêlée terrible et au prix de nouveaux affrontements, ce ne sont pas moins de 150 personnes qui seront évacuées par ce petit trou. En vérité, pour gagner la rue et se sauver, il aurait suffi que les réfugiés du terrain vague s'engouffrent dans le corridor ménagé au bout du baraquement, tout simplement. Seulement la fumée est si dense qu'elle cache cette issue, comme elle avait caché les fenêtres à l'intérieur. Terrible destin que celui de ces brûlés vifs, alors qu'ils avaient leur salut à portée de main. Un ouvrier nommé Piquet plonge dans la fournaise à plusieurs reprises. Il prend dans ses bras plusieurs femmes à la fois. Il traverse des épais rideaux de feu pour les rejeter à la rue. On lui tend un pardessus pour qu'il protège sa tête et pour qu'il puisse retourner dans la fournaise. Mais bientôt, le plancher s'écroule sous ses pas, des madriers enflammés tombent autour de lui. Il va devoir renoncer. Il y a un autre ouvrier, couvreur celui-là, qui arrachera aux flammes en tout une quarantaine de personnes. Des sergents de ville lui prêtent main forte, ainsi qu'un sommelier de la place de l'Alma, toute proche. Il faut dire que le gros panache noir qui s'élève dans le ciel de Paris a rameuté du monde. Un maître d'hôtel va pousser très loin le dévouement. Il s'est littéralement jeté dans la fournaise afin d'aller sauver la caisse des œuvres de sa patronne. Et pour sortir, il a eu le réflexe d'enfoncer une porte-fenêtre, ce qui va permettre de sauver plusieurs dizaines de personnes. On peut dire que son courage ou son inconscience n'aura donc pas été perdu. Dans la salle écroulée, vaste fournaise, il n'y a évidemment plus une seule âme en vie. Le plafond s'est écroulé d'un coup dans une gerbe d'étincelles. Une immense, une inoubliable clameur d'horreur s'est envolée vers le ciel de Paris, à laquelle n'a succédé que le ronflement des flammes. À 16h23, les secours sont à pied d'œuvre. Les pompiers, sans trop y croire, inondent l'affreux brasier à l'aide de leurs grandes lances. La foule des badauds a grandi dans la rue Jean Goujon et la police s'efforce de faire de la place. Certains sauveteurs spontanés vont encore accomplir quelques miracles. Sur le terrain vague, muet en antichambre de l'apocalypse, alors que les grands brûlés se tordent de douleur, l'évacuation par l'oculus de l'hôtel se poursuit. On se frappe, on se griffe pour s'engouffrer là-dedans. Il y a une grosse dame qui paraît atteinte de folie et qui hurle « Chacun pour soi ! Chacun pour soi !» Dans un coin du terrain, un prêtre a réuni un groupe de femmes agenouillées autour de lui dans l'attente d'une mort certaine. Sauf qu'à un moment, il y a un coup de vent qui balaye la fumée et qui permet au prêtre d'apercevoir des rescapés disparaissant par le corridor qui donne sur la rue. « Suivez-moi » ordonne-t-il à ses ouailles incrédules. « Nous sommes sauvés !» Enfin, les pompiers abattent la barrière de bois qui, à gauche du baraquement, quand on regarde depuis la rue, fermait un accès assez large au terrain vague. Cet obstacle levé, ce sont des centaines de personnes qui cette fois vont pouvoir être sauvées. Les responsables du bazar sont entrés tout droit en enfer. Ils titubent, horrifiés, au milieu de la catastrophe. Monsieur de Macco a plusieurs fois emprunté le corridor qui relie le terrain vague à la rue, ce qui a tout de même permis de sauver un peu plus de monde. Quant au pauvre Blount, celui qui avait eu l'idée de ce décor tellement inflammable, avec le visage couvert de sang et de larmes mêlées et les sourcils brûlés, il est là qui marche, qui erre, il hoquette, je suis responsable, tout cela c'est ma faute. Bien plus tard dans cette horrible soirée, il sera reconduit jusqu'à l'hôtel particulier de ses parents, et son père le recevra avec ces mots terribles « Je préférerais te savoir mort là-bas que te voir vivant ici. » Au total, l'incendie du bazar de la Charité aura fait 125 morts, ce qui est beaucoup naturellement, mais pas tant que ça, si l'on songe aux 1200 personnes qui se trouvaient là quand le sinistre s'est déclaré. Il n'empêche, la publication des chiffres va susciter un grand scandale, ce n'est pas tant le nombre des morts qui va choquer la France et l'Europe entière, que la proportion des femmes parmi eux. En effet, sur 125 victimes, 5 seulement, je dis bien 5, sont des hommes. Et encore, sur les 5, il y a 3 vieillards, un groom de 12 ans et un médecin risque tout. Tous les autres hommes, ils étaient des centaines et de tous âges, représentant la fleur de l'aristocratie et de la bourgeoisie parisienne. Tous ces hommes seront ressortis sains et saufs. Lorsqu'on sait l'âpreté de la mêlée devant les issues, un tel constat donne à réfléchir. En vérité, cet incendie aura agi comme un étonnant révélateur. La presse de gauche va s'en emparer, épinglant ce qu'elle appelle le crash de la galanterie. Et lors de la messe solennelle en hommage aux victimes, l'homélie sera cruel envers un certain nombre de gentilshommes. Dans les semaines qui suivront, les dames qui ont survécu passeront leur temps à le crier sur les toits. Les messieurs, pour leur part, préféreront se montrer discrets. Et plus jamais en France, on ne regardera un gentleman du même œil.